Aujourd'hui, médias. Alors, je n'arrive évidemment pas les mains dans les poches. J'aurais voulu simplement, d'où ce prologue interminable, réactualiser un petit peu plus, travailler davantage sur l'actualité la plus récente. Je ne vous mens pas, je vous fais passer dans la cuisine. J'ai écrit il y a 20 ans quelque chose sur des événements et des situations qui étaient celles d'il y a 20 ans. C'est là-dessus surtout que je vais me fonder. Et j'espère que vous ne serez ni lassé ni choqué. Alors, j'entre dans le vif du sujet. Dire encore plus librement qu'ailleurs que on fait partie d'une famille de militants, sans en être un même, sans en être un à l'heure actuelle, mais je l'ai été. Et il se trouve que pour diverses raisons dont on pourra parler si vous le voulez, mes parents se sont retrouvés dans ce qu'on appelait les pays de l'Est il y a maintenant une quarantaine d'années, où ses enfants, c'est-à-dire mon frère et moi, nous les avons suivis, évidemment. Et je ne peux pas cacher non pas ma religiosité, ni ma nostalgie de je ne sais quel camp de regroupement horrible, mais je ne peux pas cacher mon amour de la Russie, ma sympathie pour ceux qui ont lutté comme peu luttent en ce moment, mais ça reviendra, des gens d'une trempe assez exceptionnelle. Et j'étais frappé dans les années 75-80, quand tout le monde virait sa cutie en France et en Occident plus généralement, par les procédés employés dans certains médias, notamment certains médias dits de gauche, pour marteler une certaine idéologie. Je ne fuirai aucune discussion, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas forcé d'avoir les idées que je partage, j'aimerais simplement qu'on écoute la manière dont on fait passer dans les crânes le consensus. J'ai étudié, autrement dit, ce qui se disait des pays dits de l'Est à l'époque, qui depuis n'existent plus en tant que tels, vous le savez. J'ai étudié ce qui se disait un peu à la manière dont Chomsky, qui a eu beaucoup plus de à ce sujet et à d'autres, a étudié la manière dont la presse américaine peut parler, à une certaine époque, dans les années 85, des massacres au Cambodge et des massacres au Timor oriental, c'est-à-dire avec un double décimètre, en comparant la place qui est accordée, la manière de présenter les choses. Bref, j'entre dans le vif du sujet. J'avais édité dans une édition très confidentielle, qui s'appelait d'ailleurs les éditions de la Croix de Chavaux, c'était en vérité un avocat qui habitait à Montreuil, un bouquin qui a donc eu pour Rideau de fer vu du boulmiche, sous-titre « Notes sur la représentation des pays dits de l'Est chez l'élite cultivée du peuple le plus spirituel du monde ». Je le répète une dernière fois, il ne s'agissait pas de faire une apologie de l'Union soviétique, il s'agissait de parler de la manière dont on en parlait chez nous à cette époque. C'est-à-dire à cette époque, les années 75-85, où une véritable déferlante idéologique a fait que tout le monde a décidé qu'il fallait penser autrement à l'égard de cet autre monde. Et plus on en avait été proche, en général, plus on est devenu de mauvaise foi, voire hystérique, à l'égard de ce monde-là. Mon ouvrage, mon petit pamphlet, que j'ai fait, encore une fois, en regardant beaucoup de journaux de près, j'ai lu beaucoup de bêtises, et beaucoup de bouquins qui, même si je n'étais pas d'accord avec eux, étaient intéressants à ce sujet. Donc cette petite affaire, elle m'a d'abord fait connaître, car j'étais bien jeune et donc bien naïf, l'existence d'une sorte de gentille censure dans nos pays démocratiques. Vous envoyez un bouquin qui parle des journalistes à 100 journalistes, il n'y en a pas un qui en parle. Alors, même si c'est mauvais, il y a des critiques qui disent qu'un bouquin est mauvais. Ça, c'était assez étonnant. Et je vous raconte vraiment des détails peu essentiels, mais qui, moi, me paraissent importants quand même, dans ce que je veux vous dire. On en a vendu 3000, ce qui est honorable. J'étais auteur colporteur, c'était je ne sais quelle réunion où il y avait du monde, on m'invitait, il y en avait 10-15 qui partaient. Des gens militants aussi en ont vendu. Donc, des idées, être tout de même gratifié d'un succès très relatif. personne ne va en prison, ça c'est indéniable, pour avoir dit ou colporté des choses comme ça, mais en même temps, il y a des choses qui ressemblent à une certaine censure. Alors le vif du sujet, ça se divisait en quatre parties. La première, j'appelais ça l'essentiel et l'accidentel. C'était, en essayant de présenter ça avec humour, pour avoir les rieurs de mon côté, les comportements notamment des touristes que j'accompagnais très souvent dans les pays. Deuxièmement, ce s'appelait le politique et le quotidien. C'était, alors que des journaux comme l'Humanité, on leur a souvent reproché il y a 20 ou 30 ans de présenter la moindre affaire de chien écrasé comme un problème politique. Après tout, un accident du travail, c'est pas seulement un accident du travail. Il y a des tas de choses qui sont présentées aujourd'hui comme faits divers qui sont des problèmes politiques. Là, c'était évidemment tout à l'inverse. Les résultats sportifs, les voyages dans l'espace, les championnats d'échecs, même l'analyse de la soulographie qui était un phénomène assez répandu en Union soviétique, les petits vols, les larcins, les combines, les trucages de la loi, tout ça devenait, dans la presse française, des formes de résistance au système, des choses politiquement très intéressantes qui confirment la haine qui était répandue ici à ce sujet. Troisième partie, j'ai appelé ça l'angoissant et le bien connu. La campagne qui a été faite autour des ouvrages écrits par certains dissidents, quelques chiffres mériteront d'être rappelés, même si c'est 20 ans après la bataille. Et enfin, quatrièmement, ça s'appelait l'uniforme et le libre arbitre. Là, c'était là que j'avais le plus regardé jusque dans le détail, comparé la manière dont certains événements, en particulier la crise qui a eu lieu en Pologne avec l'état de siège proclamé par le général Jaruzelski et puis peu à peu la venue du syndicat de fait au pouvoir. Bon, j'avais comparé la manière dont certaines choses étaient traitées quand on parlait de ces choses-là, de ce problème-là notamment, et d'autres problèmes beaucoup plus sanglants, il faut l'avouer. Jeune professeur, je me promenais assez fréquemment, quand j'avais 10 jours de libre, dans des pays que je connaissais que les autres, et notamment donc en Russie plutôt qu'en Union soviétique, en vieille Russie, Moscou, Novgorod, Leningrad, éventuellement Kiev en Ukraine. Et il était tout de même intéressant de voir comment, dès qu'on avait pris place dans un avion, à la moindre note de balalaïka, des jeunes gens inquiets venaient me voir, me demandant s'ils devaient mentionner leur boucle d'oreille à la rubrique objet de valeur, s'ils pourraient faire leur jogging, toutes choses qui, pour ont été là-bas même dans des périodes moins illuminées qu'aujourd'hui, moins vivantes, hein. Vous savez énormément, un petit peu hallucinantes. Visite d'une usine à Kiev en Ukraine, ce coup-là, que pensez-vous du mode de production capitaliste? Demande un des touristes français à la personne qui nous fait visiter et qui ne parle pas le français. Mauvaise traduction. Ça, tout le monde ne comprend pas qu'il y a mauvaise traduction. Trump répond les produits importés d'Occident sont d'assez bonne qualité en général. Éclat de rire un peu grossier devant la personne qui nous reçoit, et il faut expliquer qu'on a traduit qu'est-ce que vous pensez de la production capitaliste, pas du capitalisme, du mode de production capitaliste, qu'est-ce que vous pensez de la production. Donc l'autre a répondu par une politesse qui s'imposait. Je me souviens d'un cours que j'avais subi où un professeur en sciences politiques parlait sans aucune gêne de réception, où il avait été traité très bien, et même très 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 bien. Une sorte de destinée à divertir les possibles. Chacun de mes jeunes touristes, qui en général étaient étudiants, ou jeunes professeurs, ou jeunes avocats, de philosophie de la Rochefoucauld au petit pied, spontanément, cherchant toujours l'intérêt, la manipulation, la chose un petit peu vicieuse dans une simple réception organisée par des étudiants, éventuellement cartés dans je ne sais quelle organisation, communiste ou paracommuniste. Il était intéressant, sans abuser de votre patience avec ces petites anecdotes, c'est la première partie, il était intéressant de voir avec quelle hystérie est un mot un peu nerveux, mais enfin ça y ressemblait, avec quelle frénésie, dès l'embarquement à Roissy, je l'ai dit, mais encore plus dès l'arrivée dans les aéroports là-bas, la moindre demi-heure d'attente qui était infligée et qui est toujours pire que ça. Vous me direz, il y a le terrorisme, mais ciel d'universités diverses, vous pouvez être mis de côté, on vous fait attendre. Vous espérez que vous passerez pas la nuit là-dedans. Mais bon, à l'époque, il y avait des fouilles, des valises, pas franchement rapides. Il était étonnant de voir avec quelle rapidité, si vous voulez, le touriste qui allait en vacances là-bas faisait de la politique. Au même moment, quand vous attendiez en août 81, par exemple, comme je l'ai fait, une heure et demie à l'aéroport de Casablanca pour des histoires de formalités très tatillonnes, je suis sûr que personne n'a jamais pensé que cette année-là, qui était d'ailleurs mauvaise pour le tourisme, vous comprendrez pourquoi, une manifestation avait été, je ne trouve pas de mot moins vulgaire, canardée du haut d'hélicoptères, et on avait, si je puis dire, relevé 600 morts dans cette ville. J'ai rarement vu en Égypte des gens se demander s'il n'y a pas eu 70 morts pour je ne sais quelle émeute de la faim quelques mois auparavant, alors qu'ils attendent très très longuement également que les formalités de douane soient enfin terminées. Je veux passer sur ce qui est vraiment, vraiment dépassé. Les choses de la vie, si vous voulez, ça n'existait pas à l'Est. Pour ces jeunes, ils ont été conditionnés, ce qui n'empêche pas qu'ils avaient le droit d'être intelligents et de faire leurs analyses en visitant, si du moins on peut faire des analyses très approfondies, en visitant un pays quelques jours. Le fait de devoir déposer son manteau au vestiaire, qui est une tradition casse-pied, une tradition paysanne, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Vous êtes mal poli quand vous entrez en Russie, c'est encore le cas bien sûr, dans un endroit, en général surchauffé d'ailleurs, et si vous déposez pas poliment votre manteau, à un vestiaire. Ça se passe partout comme ça, pas seulement dans les musées, mais partout dans des restaurants. Vous avez l'air quasiment de ne pas être assez propre si vous allez vous asseoir tout en mitouflé. Et on vous fait une remarque. Ce genre de petites choses suscitait, je le répète encore, une sorte d'hystérie, j'ai employé trois fois le mot, je continue, qui s'est traduit par exemple dans le livre qui s'est traduite par exemple dans un livre qui a eu un grand succès, qui a été écrit par Jean et Nina Kehayan, deux journalistes anciennement communistes, qu'il était peut-être encore à l'époque, et ça serait franchement inintéressant si c'était un bouquin que j'avais été chercher, c'est un bouquin qui a été vendu à 400 000 exemplaires en France. Je parle d'un phénomène de société, ça s'appelait « Rue du prolétaire rouge ». Et c'était fait de petites anecdotes ridicules. Alors aujourd'hui, qu'il y a la religion américaine qui fait qu'on casse les pieds au moindre camarade qui essaye de fumer une cigarette discrètement au pied d'un immeuble, ça paraît encore plus fou. Mais vous avez un chapitre, tous sont de la même veine, dans le bouquin de Jean Kehayan qui s'est vendu à 400 000 exemplaires, dans les années 78, où il explique que dans un avion, il sort un cigare, comme c'est un avion soviétique, c'est pas pareil, l'hôtesse lui fait la remarque que ça se fait pas, et puis il commence à créer une sorte de mini-émeute avec tous les touristes français qui militent pour qu'il ait le droit, comme un citoyen français, de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Je vous relis cette idiotie, mais encore une fois, je n'insiste pas sur l'intérêt de la chose, mais sur l'intérêt du fait que ça a structuré nos cerveaux, à moi en tout cas, quinquagénaire, on a vécu là-dedans, et les jeunes sont nés après qu'il se soit passé quand même ce genre de campagne, en France notamment. Comme je n'étais pas le seul fumeur à bord, j'acceptais d'éteindre, je crois quand même, mon cigare, à condition que tout le monde agisse de même. Entre-temps, j'avais accepté un délicieux Havane complaisamment offert par un passager. C'est-à-dire, au départ, il y avait une simple cigarette, et puis entre-temps, il accepte un Havane. Le ton monta, je mis donc mon cigare dans le cendrier, il continuait à produire quelques volutes bleues. Nouvelle intervention. Bon, et deux pages comme ça, qui montrent à quel point, si vous voulez, toute petite, même pas fait divers, mais petite sottise de la vie quotidienne était hystérisée. À l'Opéra de Paris, vous avez vu sans doute, si vous y avez été, trois ouvreuses plongées sur un touriste qui essaye de photographier le plafond de Chagall, qui dit « Donnez votre appareil, n'oubliez pas, on vous le rendra à la sortie. Le fait interdit dans des musées, mais pas dans tous, et évidemment, c'est le tellement furieux mes touristes dont je vous ai. On m'a demandé est-ce bien intéressant? Oui, parce que ça fait partie de mon discours. On m'a demandé si j'avais été choisi comme accompagnateur du voyage par les autorités soviétiques. Question que lorsque j'ai accompagné des gens en Turquie, en Égypte, ou dans des pays où il se passait des choses parfois assez spéciales, on n'aurait jamais eu l'idée de me poser. Pour la petite histoire, j'avais été embauché par une sorte de sympathique copinage au boulevard Saint-Michel qui n'avait aucun rapport avec ce qui se passait là-bas. Et bref, j'ai fini de parler de cette phénoménologie, si vous voulez, du voyageur des années 80, qui allait là-bas pour voir, en sachant déjà à peu près tout ce qu'il avait voulu savoir pour la vie, en parlant du comportement de ces gens. Parce que je ne fais pas une prédication, mais enfin, on a tous sa morale, souvent la morale de sa famille, et il se trouve que je déteste le commerce, sans choquer ceux qui seraient commerçants ici, beaucoup de commerçants dans ma famille, mais enfin, c'est pas ça qui m'amuse. Et puis, il s'agit d'un commerce un peu spécial, comme vous savez, la monnaie était à un certain cours pour faire bien. On disait que le rouble valait 1 dollar, donc en gros aujourd'hui 1 euro, 5-6 francs anciens, enfin 5-6 francs d'avant l'euro, et tout le monde savait que c'était différent, ce qui fait que, je ne dis pas des grands criminels, mais enfin, quand même la lie de la population, des jeunes qui pour tout idéal, quand c'était pas plus crapuleux, n'en avait qu'un, c'est-à-dire porter des lunettes Ray-Ban et des ceintures de telle ou telle marque précise, des jeunes soviétiques, traficoter et vous proposer sans arrêt, alors que la police essayait de les dissuader ou sans doute leur coller je ne sais quelle amende quand ils les attrapaient, ils vous proposaient quand vous étiez touriste occidental, petit échange, pas standard du tout. Vous me donnez l'équivalent de 5 francs français à l'époque, disons d'un euro, je ne vais pas vous donner un rouble, mais je vais vous en donner 5 ou 6, car il était notoirement surévalué. Bon, alors moi je m'y refusais, c'est pas pour cette prédication que je vous parle de ça, je m'y refusais même pas, dire c'était inconcevable, je guidais une trentaine de personnes, je n'allais pas donner cet exemple-là. Les prix étaient incroyablement bas pour nous. C'était pas l'effet tiers-monde comme il y a 20 ans. Hein. Vous savez que maintenant, dans le monde entier, les hôtels et autres choses pour touristes ont adopté des prix un peu standards qui n'ont plus rien à voir avec les prix de ce que peut s'offrir la population. Dans ces pays désormais libérés, à Prague par exemple, vous avez 5% de la population qui peut y aller. Et encore, au centre de Prague, vous n'entendez plus parler que allemand, anglais, français, allemand, russe éventuellement, espagnol, mais jamais le tchèque. Et 95% de la population vit dans un autre monde, où les prix sont absolument inabordables, puis l'hôtel et de tout ce qui en gros de Paris. Je reviens à mon mouton, c'est-à-dire à l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'Opéra de Kiev, par exemple, jouait plus ou moins bien, pas avec les moyens de l'Opéra de Paris d'aujourd'hui, etc. Mais enfin, parfois traduit en russe, c'est un peu dur, italien. J'avais noté 16 juillet 83, Lucia de la mer mort de Donizetti, 18 juillet, Don Juan de Mozart, 19 juillet, Gisèle d'Alfred Adam, 20 juillet, Othello de Verdi. Vous aviez des gens, pour les raisons qu'on veut, mais enfin, affamés de culture, et qui allaient souvent, et pour des prix assez modiques pour eux. Et au premier rang, ça valait 30 francs de l'époque, ce qui est à dire que, pour aujourd'hui, c'est comme si on vous disait... 5 euros en faisant la division à la calculette, mais enfin, disons une place à 10 euros, au premier rang à l'opéra. Je reviens à mon histoire de change dans les rues. Il m'arrivait de dire à mes touristes, chers amis, les autorités ou je ne sais quel bonhomme qui va prendre l'argent exige qu'on paye en devise ces places d'opéra. C'est-à-dire, vous allez dégainer 5 euros ou 10 euros. Et vous n'allez pas pouvoir, sous-entendu, utiliser vos roubles monnaie de singe. Et ça provoquait un tollé dans le groupe. Quel scandale, on va pas pouvoir payer notre place au premier rang à l'opéra à 3 francs 6 sous, on va être obligé de la payer 10 fois moins cher qu'à Paris. Et peu à peu, c'est ça qui était tout de même intéressant pour voir la dégénérescence, c'est des grands mots, je vous ai dit, c'est pas une prédication, mais enfin... La décomposition d'une couche sociale entière, des jeunes professeurs, des avocats, des étudiants, ça devenait peu à peu un petit groupe. Et puis après même, c'était pas seulement du commerce de détail, ça devenait un commerce de gros. Il y en avait une qui accompagnait des groupes également, qui disait « par bien avec 3 jeans, vous remboursez le voyage ». Bref, dans chaque hôtel, j'avais droit à 5-6... des jeunes gens BCBG qui traficotaient avec les gens dont j'ai parlé, qui traînaient dans les rues et qui passaient leur temps à faire ce commerce subtil. Tout ça était assez perturbant. Ça ne change rien aux critiques qu'on peut adresser au régime, mais c'est perturbant. Deuxième chapitre. Le politique et le quotidien. Et vous êtes venu sur un titre que j'essaye de justifier. Hein. Comment on forge, comment on moule des cerveaux? De même qu'aujourd'hui, pour quand même vous rappeler que j'essaie, même si je n'ai pas assez actualisé mon discours, d'avoir des idées sur ce que je vois aujourd'hui aussi, il est clair que le mort guatémaltèque ne vaut pas le mort américain, même si c'est un mort noir américain de Louisiane. Nous avons vécu, comme à chaque ouragan, dans l'angoisse extrême, dans la baisse d'intensité de l'ouragan qui va venir, et puis finalement dans la catastrophe qu'il y a eu en Louisiane, et on a entendu à 8h20, pour ceux qui écoutent les journaux complets, que c'est pas 200, c'est 600 morts qu'il y a eu en Amérique centrale, ou telle dévastation à Cuba. Il y a une place qui est accordée, et un pathos, des affects qui sont déchargés à propos de certains événements, qui évidemment n'est pas comparable à ce qui est accordé à des événements du même style, mais qui n'arrivent pas au même endroit, dans le même pays, dans... un endroit où il y a des moyens extraordinaires pour diffuser des images, dans un endroit qui politiquement est censé être beaucoup plus proche de nous. Alors, deuxième chapitre, j'énumère quelques ensembles, si vous voulez, de choses absolument invraisemblables, de haine, de mesquinerie, de stupidité, qui par exemple étaient déversées dans des manifestations sportives. Alors, encore une fois, je n'étais pas dans les hormones des tous les pays en même temps qui faisaient les mêmes choses. Il semble bien avéré qu'il y avait comme un problème, notamment, pas mal de sportifs de la RDA. Ça n'est pas ce sur quoi je vais appuyer. Je lis dans Libération, juillet 80, « Le football de l'Est n'a pas réussi à produire une partie de football régalante depuis une décennie. » Et cela tend à confirmer qu'en plus de la censure officielle, la vie dans ces pays est régie par une censure plus officieuse, dans la tête, comme on dit, qui interdit aux joueurs, non dénués de talent, de se laisser aller à quelques dribbles chaloupés ou quelques-unes d'eux insolentes. Bon, la manière de jouer est interprétée politiquement. Le même accident arrive à une championne américaine, Il s'appelait Evelyn Ashford, un claquage lors des Jeux, pas des Jeux, lors de championnat du monde d'Helsinki en 1982. En polémiquant un peu, je parlerai de quasi deuil national, mais enfin les commentateurs sont très émus. Thierry Roland qui n'en loupe pas une. S'exclame même au cours d'un reportage un peu rapide, elle a été foudroyée comme un lapin, en plein vol. Le même accident arrive à un Cubain fort sympathique et fort estimable, un grand champion, Alberto Juan Torrena, ironie à propos de ce champion qui déclarait gagner grâce au socialisme, et il a probablement terminé sa carrière sur cette piste. Adios Alberto Juan Torrena. Toujours avec ce style un petit peu rigolard, gouailleur, qu'on connaît bien et qui a fait une part du succès du journal Libération. On dénigre les victoires. On truque, et là c'est intéressant, je crois, sur des petits faits divers, parce que la grande histoire aussi est truquée. On truque sur des choses qui, normalement, quand on est journaliste, ne devraient pas être discutables. Je m'explique. Les voyages spatiaux. Vous savez que le voyageur de Langevin, le savant en français Langevin, disait, c'est une affaire qui a rapport à la théorie de la relativité, que je ne connais pas dans le détail, enfin, si on fait tourner un bonhomme à la vitesse de la lumière pendant une quarantaine d'années autour de la, pendant un an autour de la Terre, si on faisait, on n'en a pas les moyens, si on faisait, il reviendrait sur Terre et se serait écoulé 40 ans pour nous. Semble bien que le premier cosmonaute français ou spationaute, on dit, le malheureux Jean-Loup Chrétien, il doit avoir cru qu'il lui arrivait quelque chose du même style, ou qu'il était remonté par rétropédalage dans une des plus sombres périodes de la guerre froide quand il a fait un tour dans l'espace. Il y a véritablement... je ne veux pas vous infliger des citations de journal d'il y a 25 ans, mais je vais vous en infliger quelques-unes. Le cri haineux qui s'élevait contre le fait, dans un pays quand même qui est assez vite cocardier, content des réussites d'un Airbus ou de choses de ce genre. C'est hallucinant de voir ce qu'a écrit la presse dite de gauche lorsque Jean-Loup Chrétien a osé prendre une place dans les fusées des soviétiques. À la Cité des Étoiles, c'est l'endroit où les cosmonautes s'entraînaient, Jean-Loup Chrétien a emporté avec lui les aventures de Tintin et quelques cassettes de chant breton qui lui tiendront compagnie aussi dans l'espace, comme s'il avait besoin de garder toujours une porte ouverte sur l'ailleurs. Que voilà une coopération qui consiste à mendier une place sur orbite auprès d'une des dictatures les plus oppressives de la planète, bon, etc., etc. Évidemment, j'ai comparé, et je passe sur les détails, la manière dont les navettes spatiales américaines sont traitées, la place qui leur est consacrée, qui est toujours invraisemblablement disproportionnée. Dénigrement... de ce qui marche bien, c'est ceux d'en face. L'URSS est devenue une gigantesque usine à lancer des engins, décrète le nouvel observateur. Grâce à ce nouvel opium du peuple, les moscovites oublient qu'ils font la queue devant les magasins de chaussures. Ils rêvent aux satellites qui font la queue sur leurs orbites, etc. Mais quand je parlais de trucage de l'histoire, c'est que si vous lisez bien ces journaux, vous vous apercevez qu'en vérité, Jean-Loup Chrétien n'a pas volé. Un certain Ulf Merbold, un Allemand de l'Ouest, à l'époque il y en avait deux, est décrété par la presse française premier européen de l'espace. C'est une citation. Libération, 29 novembre 83. L'Europe spatiale sur orbite. La première femme dans l'espace aura été une Américaine, pour ceux qui connaissent un peu les annales de ces choses-là, c'est-à-dire tous ceux qui ont regardé la télé, quand ils étaient petits, c'était Valentina Tereshkova, une femme de l'autre côté. Tout ça étant bien ancien, je passe sur la haine déversée sur Karpov, l'excitation, l'hystérie, à propos des championnats d'échecs. Karpov-Kasparov, c'était l'homme dans la ligne contre le dissident, c'était un peu vrai d'ailleurs. Mais le côté génial de ce sport de haut vol qu'est le jeu d'échecs, il perdait beaucoup. et ça suffit. Je voudrais surtout, avant pour vous laisser parler, si par hasard, ou pas par hasard, vous êtes pas d'accord ou estomaqué. Alors, troisièmement, il est clair que le retournement de l'opinion française au sujet de ce qui se passait à l'Est est dû à beaucoup de choses, en particulier parce que, il y avait des choses à l'Est qui laissaient de plus en plus perplexes. Mais j'ai parlé du livre de Jean Caillan, 4e partie. Il y a eu dans les années 75, et ce qui est quand même étonnant, que j'ai toujours pas compris, ça a donné toute une génération qui avait appris depuis 20 ou 30 ans, depuis un congrès soviétique d'ailleurs, qu'on pouvait rêver d'un monde meilleur et considérer qu'il y avait eu des crimes tout à fait horribles, scandaleux, monstrueux à l'époque de Staline. Et ces gens ont tout soudain réalisé que c'était vraiment l'horreur, alors que pendant 30 ans, ils avaient vécu avec cette idée que pouvait quand même faire mieux côté socialisme que la période stalinienne. Je donne les chiffres. L'archipel du Goulag, en France seulement, ça a été traduit dans le monde entier, le volume 1 seulement, ce qui est symptomatique, ça veut dire que c'est pas seulement l'amour de la grande littérature, a été vendu à 700 000 exemplaires. Et on a tout en une galerie de livres dont certains, alors l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, tout le monde sait que ça existe, mais il y en a dont on a oublié le nom, quant à l'auteur on ne sait plus qu'il existe, par exemple la Nomenklatura de Mikhail Voslensky. C'est un livre qui a été vendu à 400 000 exemplaires en France, et qui évidemment a été vendu de la même façon en Allemagne, en Italie, dans tous les pays du monde occidental. C'était un livre bête, j'ose le dire, ce livre, la Nomenklatura, parce que qu'il en ait existé une, c'est indéniable, mais il essayait d'appliquer en gros des catégories marxistes à tout ce qui s'était passé en Union soviétique. Alors ça donnait, au début ils ont tout nationalisé, c'est comme l'accumulation primitive, c'est-à-dire ce que Marx appelle comme ça quand il parle de l'avènement de la bourgeoisie, avec des prédations, des destructions, des biens qui appartiennent à des communautés paysannes, etc., à la fin du Moyen-Âge. Et à force de vouloir faire des symétries, ce livre n'est pas franchement convaincant. Mais je parle uniquement du fait que ça a été évidemment une campagne éditoriale, une campagne politique, et on a assisté à des itinéraires tout à fait pataphysiques. L'ancien 68 A, j'en cite un parmi beaucoup d'autres, André Glucksmann, sont devenus, dans notre pays en tout cas, les fers de lance de campagnes médiatiques, qui ont très vite abouti, puisque j'ai parlé de lui, à un enrégimentement complet des mêmes à l'autre extrême, parlez plus de socialisme à visage humain, si vous voulez, chaque fois qu'il y a une guerre américaine qui se prépare, qu'est-ce qu'on fait? On montre André Glucksmann à la télévision. Ça, c'est pas une calomnie. Il a signé pour que nous bombardions le Tchad, la France, qu'il a fait quelque temps après en 83. La guerre d'Irak numéro 1, il était pour. La guerre d'Irak numéro 2, il était pour. L'intervention en Yougoslavie, il était pour. Ce parcours de toute cette génération qui est la mienne est à l'évidence interpelle au niveau du vécu profond, comme on dit. Mon idée, si vous voulez pas s'être trompé, c'est que quand on s'est trompé, on se tait. Et pour finir, je vous ai économisé beaucoup de citations parce qu'elles pourraient paraître anciennes, désuètes. Là, je vous économiserai pas les chiffres, comme ça, au moins, ce que je dis n'aura pas l'air d'un simple discours idéologique, mais au moins d'un discours idéologique, bien sûr, mais qui s'appuie sur des recherches assez rapides, mais des recherches qui m'ont pris une petite année. Il est clair qu'il faut quand même psychanalyser cette drôle de gauche qui a rallié tout de même un ancien ministre de la 4e République, qui avait été plutôt sur une position extrême dans les guerres coloniales, extrêmement favorable à ce qu'on les mène jusqu'au bout, et qui a curieusement changé énormément. J'aurais même la cruauté de vous dire, si vous avez le temps de regarder dans une bibliothèque le livre « Pour un socialisme du possible » de François Mitterrand, ça date des années 70, vous aurez l'impression de lire le discours d'un paléo-communiste. Il faut voir ce que la gauche non-communiste proposait, écrivait, signait dans les années 70. Alors, je crois qu'il y a cinq figures de rhétorique principale. Le matin de Paris, à l'époque, j'étais de gauche. Un hebdomadaire, donc, et trois quotidiens. D'abord, il y a l'art de l'ellipse. On abolit purement et simplement l'histoire récente. Ça a valu, dans toute la campagne qui a favorisé l'élection de François Mitterrand, hein. C'est-à-dire, le problème était quand même tellement gros, celui de son passé d'Algérie, hein, je ne parle pas du précédent, qu'on entendait dire sans cesse, ah, c'est comme le bon en vieillissant. Mais il y avait ce problème qui était sans cesse par la presse dont je parle. Deuxièmement, la fausse symétrie. La fausse symétrie, c'est une. Par exemple, qui venait rester pouvait écrire, j'en cite un, Twain Spear, voir à la fois l'existence du goulag en URSS sans pour autant être accusé de les mettre tous les deux sur le genre de symétrie permanente. Celle-là est fausse, à mon avis, parce qu'à l'époque où il parlait. Amnesty International, qui n'est pas un organisme du KGB, ne parlait pas de dizaines de milliers de gens enfermés dans des camps. Même les soviétologues les plus nerveux admettent que la période, c'est une période, c'est pas tout pareil. Si on dit c'est 70 ans de totalitarisme, on n'a rien dit. Sauf qu'on a inventé un concept qui permet de même panier nazisme et soviétisme. La fausse symétrie, on la voit encore, je crois, tous les jours. Chaque fois qu'on veut dédouaner un vrai méchant, on compare avec des gens qui ont forcément également un défaut à se reprocher. Troisièmement, c'était la dubitation. Hein. Le maître mot était réfléchir. On a le droit de réfléchir, on a le droit de réfléchir. Mais moi, je pense que la gauche française, c'est... cette époque-là, si vous le refeuilletez, l'élection d'hiver, s'est constituée l'Amérique de Ronald Reagan. Franz-Olivier Gisbert n'est pas un mauvais journaliste, c'est sûr, mais de voir dans un journal de gauche des photos où s'étalait avec le plus beau sourire le représentant numéro un de la campagne qui va devenir la campagne néolibérale, comme on dit maintenant, c'était un peu étonnant. Au moment des grèves, des affaires style SNCM multipliées par 12 dans les compagnies d'aviation américaines qui désormais sont tout ce qu'il y a de plus privatisé. D'autre part, c'est la répétition, la quatrième figure de rhétorique. Il y a des anniversaires qu'on oublie par le président, par la direction du Parti communiste chinois actuel, mais vous remarquez, vous ne pouvez pas y échapper. Anniversaire de Tiananmen à commémorer dans les médias français. Depuis 3 ou 4 ans, j'entends parler de quelques nerveux qui manifestent, et d'ailleurs ça occasionne quelques blessés, c'est assez chaud, pour commémorer le coup d'État qui a été fait à Santiago du Chili en 73. Mais pendant des années, les journaux dont je parle, alors qu'il y avait des morts les jours de cette commémoration, qui était une manifestation violente, et quand la dictature existait encore, on ne signalait même pas ça. Autour de la Pologne, je vous épargne des détails, les dirigeants polonais qui n'inspiraient pas une sympathie folle, et la suite non plus, hein, puisque le général Jaruzelski... n'a même pas eu, semble-t-il, le courage de ses opinions par la suite, et il s'est réinséré dans une sorte de normalité d'une Pologne tout à fait changée. La manière dont on a comparé tout ce qui se passait dans un conflit social très violent, qui remettait en cause la structure même de la politique polonaise, de son appartenance au bloc de l'Est. La manière dont on a comparé sans arrêt à des nazis, ceux qui n'étaient pas du bon côté de ce conflit, où on a comparé l'état de siège de Jaruzelski à une dictature pire que celle des nazis. Je lis ça chez, dans Charlie Hebdo, dans tous les journaux de la gauche qu'on veut. C'est tout de même intéressant d'y revenir, je crois, 25 ans après. Alors, on peut parler de toutes les solutions qu'on veut. Cette crise polonaise de 81-83. Et les prix Nobel, les prix du festival, que pour la Pologne à cette époque-là, avec des campagnes de presse. Quand Walesa n'a pas eu le prix Nobel l'année numéro 1, il l'a eu l'année suivante finalement. Le prix Nobel volé à Walesa, etc. Alors, statistiques. Je vais vous terminer ce discours peut-être un peu paradoxal et anachronique en faisant des statistiques. J'ai pris la une de Libération, par exemple, sur trois années. 80-83. 1er août 80, 31 août 83. La une avait un gros titre et la photo qui va avec en dessous. Deux fois sur l'Afrique du Sud. Et c'est pas rien en Afrique du Sud, puisque c'était l'époque où il y avait des manifestations contre l'apartheid, et par vagues, des dizaines, des centaines de personnes se faisaient tirer dessus par une police, on l'oublie souvent, dans laquelle il y avait beaucoup de noirs. Hein. Il ne suffit pas d'être noir pour ne pas tirer sur des manifestants en régime d'apartheid. Je dis ça, évidemment, uniquement parce qu'il y a une conception naïve de la politique après 20 ans de bouillie morale qui, je crois, fait qu'on doit rappeler quelques évidences. Les deux unes sur l'Afrique du Sud, d'ailleurs, c'était des unes très soft. Hein. Il y en a une, par exemple, c'était « Droit de l'homme, le rugby à bon dos ». Alors, je ne sais plus. C'était que l'équipe de France voulait y aller, bien qu'il y ait l'apartheid ou l'inverse. C'est pas grave. Une autre fois, c'est la libération d'un poète, Breitenbach, emprisonné jusque-là. Mitterrand accueille un deuxième poète. Donc, au cas où vous auriez oublié une seconde, comme il avait fait libérer quelqu'un à Cuba, quand il parle de l'Afrique du Sud très rarement, la libération vous rappelle qu'il y a l'autre côté. C'est ça que j'appelle la symétrie bizarre. 6-1 sur l'Irlande du Nord. Je m'amusais à poser la question parce que j'étais déjà taquin. Dans quel pays d'Europe y a-t-il, depuis 10 ans, 300 morts par mort violente chaque année, dans les années 80-90? Et personne ne trouvait que c'était l'Irlande. L'Irlande du Nord, vous vous souvenez sans doute pas, 10 jeunes gens ont entamé une grève de la faim à mort, se relayant, quand l'un mourrait, un autre recommençait. Bon. En Grande-Bretagne, à cette époque-là, elles existaient certainement d'une façon relative, mais enfin, c'était tout de même des crimes horribles, puisqu'ils demandaient simplement à être traités comme des prisonniers politiques. Ils auraient interrompu leur grève de la faim si on leur avait accordé ce droit. Irlande du Nord, 6 fois. Turquie, 1 fois. En 3 ans. Chili, 4 fois. Amérique centrale, 7 fois. Pour ménager mes effets, je vous dis que il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé qu'au Nicaragua, c'est ça, il y a eu 60 000 morts. Au Guatemala, il y a eu 60 000 morts dans une guerre qui était d'un côté appuyée par l'administration américaine. Et il y a eu 77 fois un gros titre sur la Pologne. J'avais regardé également les éditoriaux et la une du Matin de Paris, journal qui a disparu pour raisons financières. Évidemment, c'est du même ordre. Afrique du Sud, 0, pendant la même époque. Irlande du Nord, 0. Turquie, 1. Chili, 2. Amérique centrale, 2. Pologne, 60. Les photographies figurant à la une, c'était pas aussi lié que dans Libération, c'est à peu près pareil. 62 Pologne et les mêmes chiffres pour les autres. Bon, pour le Nouvel Observateur, c'était un peu... je suis à moitié content de moi, d'abord parce que tout ça est bien vieux, mais je crois tout de même pour finir tout, sur quelque chose qui vous paraîtra actuel et vous laisser enfin parler, c'est même plus la peine de dire qu'il faut être vigilant à l'égard de ce que nous disent les médias. Une élection dont dépendait pas le sort de l'Allemagne, mais presque. Quand on cherchait qui serait chancelier, à Dresde, il y avait une élection partielle. Ah, qui va marquer un point, les conservateurs ou les sociodémocrates? 23% seulement des électeurs se sont déplacés. Donc ça, c'est pas les médias, mais le système politique depuis 20 ans, la crédibilité qu'il a, évidemment, s'est écroulée dans nos pays. Quant aux médias, tout le monde sait bien qu'on regarde la télévision avec une sorte de petit cynisme, quoi. C'est le spectacle, c'est peut-être du vrai, mais on sait bien que c'est arrangé. Il y a un livre qui est paru à ce sujet, qui doit s'appeler « La télévision », que je n'ai pas trouvé formidable, mais qui dit ça très bien. Il y a une distance bizarre, quoi. Tout ça n'est pas naturel, et aujourd'hui, tout le monde le vit comme ça. Mais il est clair qu'on façonne quand même les esprits. Il est clair que ceux qui n'ont pas la télévision sont sans cesse sollicités par la foule dont je fais partie, qui la regarde au moins un peu. Et puis si on ne la regarde pas et si on ne l'a pas, c'est ce qu'il y a dans les conversations, dans l'air du temps, à la une des journaux écrits, à la radio. Alors, tout ça donne, pour finir quand même en liant un peu les deux choses, mes cogitations sur des affaires très très passées, et puis la vigilance, aujourd'hui, je dirais pas généralisée, mais aujourd'hui quand même un peu spontanée, qu'on doit avoir, sont données par les grands médias. Je vous rappelle que la victoire sur le nazisme a été commémorée, c'était le 40e par le président. Il y a encore des dirigeants soviétiques qui, en tant que tels, étaient dirigeants d'un pays qui existait, qui avait ce nom-là, invités. C'est une affaire de politique, de petite ou de grande politique qui est derrière nous. Mais il y avait un sondage. J'aime pas les sondages, mais quand même, parfois, il faut bien qu'ils nous intéressent. 67% des jeunes Français auraient répondu, ou 67% des 100 personnes échantillons représentatifs, qui pensaient que l'Allemagne nazie et l'Union soviétique étaient alliées pendant la dernière guerre mondiale. Donc, je crois qu'il faut... quelles que soient les amertumes, les colères qu'on ait vis-à-vis de ces régimes que j'ai évoqués indirectement, méditer sur cet exemple, le seul à ce jour sur lequel j'ai travaillé d'un peu près, pour penser cette bizarre société où il y a un écran qui n'est pas seulement un écran de fumée, mais un écran qui robotise les esprits, qui a provisoirement dilué toute forme d'action et de cogitation, je dirais pas libre, mais spontanée, oui, libre, de chacun d'entre nous. Votre grande patience. C'était moins érudit que la dernière fois et beaucoup plus discutable sans. Vous en prie.
Je voulais savoir ce qui avait été dit sur le
Kasparov.
Kasparov.
Et Karpov. Karpov.
Donc, vous avez été un peu battu en brèche quand vous avez eu.
Non, Kasparov a toujours été quelqu'un plutôt. Grande bouche, au bon sens du terme, courageux, qui dit ce qu'il pense. Donc il a tout de suite été catalogué comme rebelle sympathique en Occident. Karpov, comme beaucoup de champions, a été intronisé avec je ne sais quel titre par le Parti communiste soviétique. Donc on avait là le mauvais pour la presse occidentale. Jusque-là, tout est admissible. Et, bon, je regarde pas mes notes. Dans le Nouvel Observateur, par exemple, on vous racontait qu'il y avait des espions autour de Karpov, autour de la table, que d'ailleurs on avait remarqué qu'il y en a deux qui avaient été, je n'invente rien, hein, Il y en a deux qui avaient été urinés en même temps parmi les gens du staff de Karpov. Et comme tout le monde sait, les espions n'urinent que par deux. Donc, je vous ai passé les questions, mais qui pleuraient. Tout le problème, c'est que ça pleurait, mais c'est diffusé à 100 000 exemplaires. Et dans les conversations avec les gens, c'est quand même ça qui me retombe sur le dos quand j'essaye de leur parler tranquillement de ce que moi je peux avoir vu, pas plus malin qu'un autre, mais y allant plus fréquemment, puis ayant peut-être des bons souvenirs là-bas. Et j'attendais ça. C'est pas mal non plus.
Tout à l'heure, c'est pas négligeable non plus, quoi. Ouais. Donc, jeter la pierre à l'Occident par rapport à manipulation des opinions par la presse écrite, télévisuelle, ce qu'on veut, l'éducation, là-bas, je dirais des forts petits soucis quand même. Au niveau de la censure, au niveau de la pensée robotisée, même au droit à la critique, bon, c'était terrible quand même. Il faut que cette chose se soit transformée quoi, à son tour robotisée. Je pense qu'à un moment donné, il y a des choses d'effet de miroir, quoi, qui sont jouées, parce qu'on ne peut que rigoler. C'est-à-dire que quand il y avait une bague là pour raconter quand on était là-bas, c'était quoi le plus grand bonheur en Union soviétique. C'était, du matin, on tape à ta porte, t'as la trouille, évidemment, tu ouvres et on demande, il va... Et tu dis, c'est pas chez moi, c'est en face. Donc, bon, ils avaient beaucoup d'humour, parce que c'était quand même un livre... C'est une blague. Ils ne sont pas fabriqués, je dirais, c'est l'humour propre à eux, quoi, de là-bas. Mais, effectivement, qu'il y a eu occupation aussi pendant... par le parti, qu'après il y a une reconnaissance, on va dire la CGSS, etc. Il y a des anciens du parti ici qui ont fait des crises cardiaques parce que tout d'un coup, ce qu'ils avaient pensé comme juste pendant 30 ans de leur vie, ils avaient été comme des bêtes et qui sont. Voilà. Ils sont aperçus qu'on les avait bernés quelque part aussi. C'est dur, quoi. Donc, je sais pas, moi. Là-bas, les gens étaient conditionnés par les... Je comprends. Quand ensuite les médias comptent autrement, donc... C'est quoi
Mais d'abord, au point de vue du conditionnement, les touristes remarquaient ça aussi, et là, je plaisante pas à ce sujet, quoique... ça un peu tiré par les cheveux. Bon. Dans les chambres d'hôtel, il y avait des postes de radio. Et alors, dans les années 75-80, surtout en France, on expliquait que si on ne pouvait pas fermer le poste de radio, c'est-à-dire on n'entendait pas de clic, mais évidemment, ça, on pouvait mettre ce qui valait à... Non. C'est pour qu'on nous raconte bien de la propagande tout le temps. Bon. Allez savoir. Ce sont les instruments, ils étaient de ce niveau-là. Je crois que c'est incomparable. Je ne parle pas de la structure du parti, mais des choses si on veut, si on veut pas, de la continuer nord par image, c'est incomparable. Avec notre univers saturé de messages, je te donne un euro et ensuite il y a la combien d'euros donner à la télévision entre au milieu on met les émissions. Non, mais... On est saturé de messages.
Ce que tu dis, c'est que l'histoire, quelle différence il y a entre un ami, entre un pays ami et un pays frère. Et on va y répondre, ces gens là-bas, les amis, on les choisit. Alors, ici, qu'on soit entouré par 50 millions de messages différents, au moins on croit que c'est un semblant de choix, mais là-bas, tu n'avais pas le choix.
Qu'une seule chose. Je veux dire, au point de vue de la quantité de messages, ils n'étaient pas au même niveau. longtemps maintenant. Bon.
On ne peut pas faire de parallèle de beau.
Disons que je crois qu'il y a quand même une chose qui est que ici, c'est l'illusion de la liberté, on est d'accord quand même, qui est particulièrement spécifique, parce qu'il n'y a pas de plaisanterie sur le fait qu'on est robotisé ici. Tous les gens pensent qu'ils croient, qu'ils pensent tout seuls.
Moi, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de dire quelque chose comme ça. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a l'illusion d'une liberté. Je suis désolée, il faut aller avant une émission sur la Corée,
je vais être dans des défis. Dire.
C'est une obligation, si tu ne pleurais pas, si tu n'allais pas, etc. Tu ne pouvais pas. Alors ici, j'ai à une manif ou un machin qui me dit que je peux ne pas y aller. Donc après qu'on dit. Est-ce que c'est une obligation d'un point de vue philosophique? Qu'est-ce que ça veut dire être libre? C'est sûr que je m'en mets tantôt si je suis question de mon prison. Je pense que c'est là-bas, je veux dire.
Aux États-Unis, si j'ai moins de 30 ans, j'ai le droit d'avoir un problème avec la justice. Non, non. Pas à la dictature, mais un noir sur trois de moins de 30 ans aux États-Unis a eu un problème avec la justice. Et souvent, il n'a rien fait de mal. Notamment ce professeur de 64 ans qui vient de se faire passer à tabac en Louisiane, tu as vu? Non, ça, ça fait le tour du monde une fois tous les 10 ans.
On peut dire complètement qu'on n'est pas libre, quoi. Je veux dire qu'on peut s'organiser, on peut recréer un autre truc, faire un... Bon, on peut se regrouper, on a...
Mais je ne te laisse pas. Alors, je veux dire... J'oublie, mais non, pas du tout, c'est normal de parler. Une chose que je veux dire, alors, d'abord, on peut s'organiser, etc. Pas au coin de la rue, mais j'entends beaucoup d'Américains qui parlent en ce moment de l'action soft du régime. Donc nos chères libertés en Occident, avec toutes les affaires préventives sous prétexte de terrorisme, des gens qui n'ont pas le droit de sortir parce que le lendemain il y a une... en train de bouger. Pas de la 3e ni de la 4e République de France, ça va devenir une époque, je crois, beaucoup plus serrée. Est-ce qu'on aurait imaginé en 80 qu'on ne peut plus aller faire pipi sans être fouillé, montrer son sac sous un portique? C'était bon pour certains coins des États-Unis. Bon, nos libertés, elles vont être rognées. On a 6000 numéros, qu'acte qu'on fait, tu prends de l'argent à la carte bancaire et tout, je peux te dire ce que tu as fait toute la journée si je suis un bon policier. Mais ça, c'est des détails. Ce que je veux te dire, tu parles de ceux qui ont fait une crise cardiaque, c'est ça que je ne voudrais pas oublier. À quelle époque? S'ils ont fait une crise cardiaque sans être trop... En 56, quand Khrouchtchev, secrétaire du Parti communiste soviétique, a dit « Il y a eu des crimes sous Staline et il faut quand même bien le dire », je comprends. Hein. S'ils ont entendu Khrouchtchev, qu'ils ont continué, comme des millions de gens en Occident, à penser que, bon, malgré ça, il y avait des choses... système où nous vivons était condamné. Vers 80-85, je crois que Jean-Jacques, qui en était quatre pour le monde de l'Union soviétique, bon, disent on a été et c'est côté. Ah, c'est très dur à gérer, je suis d'accord.
Bon, c'est compliqué parce que là-bas aussi, ça, c'est parce que je on peut pas, je ne peux pas avoir ce décalage dans le temps comme ça. Donc, à l'époque, quand tu parlais où j'étais encore là-bas, où je viens d'arriver, même si j'étais là, bon, c'est. Bon, quand tu parles de liberté de là-bas et d'ici, tu vois, bon, peut-être que l'époque a changé aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on était moins libre en France à l'époque. Ça va.
C'est bien.
Non, j'ai pas vécu ce qu'Annie a vécu. En décalage, le quotidien d'Annie autrefois quand elle était là-bas. Et moi, je constate en France que je dirais que l'implication de la police est extrêmement forte. êtes en voiture maintenant, combien vous rencontrez de flics à l'heure actuelle? Et vous comptez, il y a 20 ans, combien vous en rencontriez? Rien à voir. Et c'est pour ça que moi, je dis, avec l'époque où nous étions en train de... Il y a une augmentation par rapport à diminution des libertés. On a les frontières. 1 km de votre coffre, mais vous n'avez absolument rien. C'est normal et c'est ainsi. Il y a des choses nouvelles qui sont inscrites dans les lois qu'on ne lit pas, mais qui, à plus ou moins long terme, a une question des libertés.
Mais c'est pas que c'est un autre débat. Là, on parle un petit peu d'autre chose, quoi.
Moi, je pense pas que ça n'aurait pas tout à fait. Je crois qu'il faut justement être très méfiant. Est-ce qu'on pourrait bien aller justement dans ce sens avec les lois Sarkozy et tout ce qui se passe en France? J'aime mieux dire qu'il faudrait bien faire attention.
Alors, moi, j'aimerais savoir comment aujourd'hui se fait-il que personne ne se révolte.
Ah ben voilà.
Parce qu'on est dans la fabrication
des consentements. On ne se révolte certainement pas assez. Parlons de ça, c'est clair.
Il y a quand même eu un dysfonctionnement grave dû au commandement en Côte d'Ivoire, qui a été révélé aujourd'hui, et il a été sanctionné. Le général, en 4 étoiles.
Oui, d'accord.
Bon, mais, donc, quand même, c'est pas la... Les militaires sont sous contrôle de la loi aussi.
Parce que, regardez, avec tous nos portables aujourd'hui et tout, on ne peut pas faire 100 mètres sans qu'on sache à l'endroit précis où on est. Que l'on fait, c'est
bien. Vous êtes libre de ne pas avoir de portable. Moi, j'ai pas d'ordinateur, je suis pas fliqué.
Mais c'est bien pour dire quand même qu'on est fiché partout. Vous avez maintenant des caméras qui vont apparaître. La majorité des bureaux français sont quand même à l'heure actuelle équipés d'ordinateurs.
Oui.
Bon, c'est quand même pas compliqué. De pister n'importe quel employé en France à partir de son ordinateur. Vous pouvez reconstituer la journée de votre employé à partir d'un ordinateur.
D'accord, mais on est quand même, autant que je sache, sous le régime de la République, quand même.
Oui. Ah oui, ben alors ça devient de plus.
Oui.
Il y en aura intérêt à brosser la barre, justement, de ce côté-là. Hein.
Oui, mais le contexte international.
Bon, alors moi j'aimerais bien, parce que là, vous êtes d'accord que bon, on est plus piqués, on est plus machin, etc. Moi j'aimerais savoir comment c'est-il que je reviens au sujet de ce soir, c'est le consentement, la fabrication, le consentement par les médias. On subit tout ce qu'on dit, les larmes, etc., tout le monde dit, et que personne ne serait. Bon, si on colle au truc. Juste comment se fait-il qu'on en arrive là? Comment on peut l'analyser, ce truc-là? À cause de quoi? C'est pas par rapport à l'Union soviétique, forcément.
La grande trouille du chômage aide beaucoup, notamment à la SNCM. Et puis le découragement chez les fonctionnaires qui risquent pas leur emploi, le découragement.
Les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas si longtemps, étaient pleins de gens révoltés. On a fait des légumes.
Oui, mais il y a aussi le 11 septembre, ça a été un traumatisme.
Bien sûr. Oui, le contexte.
Et les Américains qui ont fait sauter les tours pour pouvoir contrôler.
J'ose pas jouer, les présidents. Il veut parler ce matin.
Comment vous pourriez constituer la parole du consentement comme un objet philosophique? Parce qu'après tout, derrière, il y a des processus plus larges, comment c'est pas vrai son doxa. Comment se constitue un savoir partagé, comment se situent des rébellions par rapport à un savoir partagé. Discours essayiste journalistique.
Absolument.
La dernière, on a eu plutôt un philosophe. Je me demande, de façon plus générale, plus surplombante, comment est-ce que la fabrique du consentement est un objet qu'on peut penser philosophiquement. On voit ce rapport de processus plus généraux que les exemples particuliers.
Mais absolument. Je l'ai dit 15 fois en faisant une sorte de critique de mon discours, ce qui est pénible pour l'auditoire. Mais cela dit, moi, suis intéressé, si vous voulez, par le concept de totalitarisme qu'on met à toutes les sauces. J'aimerais en faire une critique. Je vous réponds, hein, donc pour aller un petit peu au-dessus de ce niveau à fleur de journaux d'une certaine époque sur un certain sujet. Sur ce sujet-là, quand même, totalitarisme, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Ah oui, mais quand j'étais petit, madame, on me disait qu'Hannah Arendt, c'était quelqu'un qui avait eu du succès aux États-Unis en faisant un mixage, en disant nazisme et soviétisme, c'est pareil. Stalinisme, d'ailleurs, elle n'est pas... moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas sotte et qu'elle dit que c'est une certaine période dans l'Union soviétique, qu'elle appelle totalitaire. Enfin, les gens, ils ne sont pas à ça près. Hein. Ils ont compris que... Même la fin de Gorbatchev, c'était encore totalitarisme, puisque c'était l'Union soviétique. Et ça, j'aimerais bien gratter ces arguments qui font maintenant partie. Tout ça, c'est pareil. Vous savez, dans les années 30, il y avait des... qui ont entendu ce que faisait Hitler, qui ont dit qu'il y avait, en gros, le même régime avec des formes différentes dans les trois dictatures de l'époque, selon eux, qui étaient l'URSS, nazi et Mussolini. Mussolini est passé dans les poubelles de l'histoire, on n'en parle même plus. Je vous réponds très très comment ce qui peut se dire en une phrase, donc je crois autour de ça quand même. La grande manip, si vous voulez, la grande affaire qui fait que des gens qui en 56 avaient entendu parler des crimes de Staline, 30 ans après, ont commencé à se poser des questions bizarrement sans avoir de données vraiment nouvelles. Il y a eu d'autre part des données nouvelles. Là, je redescends de la philosophie au chiffrage statistique sordide. Mais c'est important. Je me souviens qu'il y a des frémissements dans le Parti communiste français quand quelqu'un, Jean Hallenstein, osait dire « c'est peut-être pas 1 million, c'est peut-être 2,5 de victimes qu'il y a eu en Union soviétique au moment de la découlakisation, etc. » Vous savez combien Solzhenitsyn a proposé un chiffrage mort, ce qui est évidemment tout absurde. J'ai envie de savoir, et pour l'histoire de ce qui s'est passé. Ce que je sais, moi, en étudiant la presse déchaînée, c'est qu'il y a eu un délire total, non scientifique. On dit qu'il y avait eu 20, ou pendant la guerre mondiale, on disait 20 millions de morts en Union soviétique, du fait du combat contre les armées nazies, on dit maintenant 27. De rien qui travaille sérieusement, puis on passe pas à vous parler. Voilà. Et donc je poisson parce que je suis pas encore bien chaud pour m'élever à un vrai débat philosophique, vous voyez, mais question au niveau du vécu profond. Et à propos du vécu profond, parce que j'ai pas été que touriste. Non, mais un renseignement intime mais gentil et que je crois bon, alors, j'étais un individu dans un certain cadre, mais enfin je me suis retrouvé personnellement dans une sorte d'internat où il y avait des milliers d'enfants qui étaient tous comme moi-même fils de militants venus d'Indonésie, d'Iran, de Grèce, de pays occidentaux dits libres, mais qui avaient été mis en prison, torturés, souvent assassinés, et ça se trouvait en Union soviétique. Donc, là, je ne sais pas qui c'est qui a été, mais enfin, les complications de l'histoire, les bobos individuels, et le fait qu'on ne sait absolument pas, jusque dans le Parti communiste français, d'ailleurs, qu'il y a des centaines de Français qui ont franchi le rideau de fer, mais dans l'autre sens, pour trouver refuge, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, de l'autre côté, ben, c'est des données de l'histoire, même si c'est microscopique, même si on n'en a pas vu des dizaines de milliers, comme ceux qui ont voulu passer à Berlin au moment de la fin. Et, bon, une société où il y a maintenant des hyper-experts, vous racontez que, bon, l'Allemagne de l'Est, tout le monde est au chômage, mais tout ça, c'est... parce que l'ancien régime masquait des non-boulots. Mais ça veut dire que tout le monde avait un boulot, même si c'était un boulot inutile. C'est pas mal pour les gens. Et je finis mon discours qui se mord la queue en vous disant il y a une distance effroyable, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 par rapport à notre système, ça ne justifie pas tout ce qu'a fait le grand Staline, une distance effroyable. Quand on se demande... il était le chef du pays qui a gagné la guerre contre Hitler, c'est déjà quelque chose que je lui donne, quels que soient ses péchés mortels. Ah oui. Et puis si le peuple s'est battu derrière lui, c'est qu'ils n'attendaient pas qu'une seule chose, c'est qu'ils soient dans, précise là, dans l'affaire de la guerre anti-nazie. Alors ils ont défendu la Russie, je sais bien, mais enfin ils ont défendu aussi quelque chose d'autre peut-être. Mais j'arrête de causer tout seul en vous disant, monsieur, que vous êtes dans cette affaire, qui c'est qui va marquer un point de plus? Combien de gens sont 23% des inscrits. Il y avait toutes les caméras du monde qui y étaient. Alors ça n'a une raison en rien, mais c'est juste sur le fait que maintenant tout le monde s'en fout de ce système hyper libéral pour parler, enfin où on a des libertés, hein, au sens noble et ancien du mot libéral. Tout le monde considère ça avec cynisme en se disant que c'est du pipeau, pour parler encore une fois vulgairement.
Non, mais si les gens se désolidarisent comme ça pour aller voter, c'est aussi parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est plus les politiques qui gouvernent.
Exactement. C'est l'économie. Ils sont interchangeables et ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire.
Le plus triste, je pense que c'est parce que c'est vrai. C'est parce que c'est l'économie qui prime, c'est les patrons qui commandent, ce ne sont plus les politiques. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille voter pour quelqu'un? Les gens, à partir de là.
Enfin, pour ma santé mentale, dites-vous, j'imagine pas que l'Union soviétique reviendra, mais je pense que inéluctablement les gens n'accepteront pas la situation qu'on vit pendant 50 ans et qu'il y aura d'autres formes, d'autres partis, peut-être beaucoup plus rigolos. Maintenant, des problèmes traditionnels de la Révolution française et de l'Union soviétique se reposeront. C'est pas un parti où il y en a 8 qui se poussent pour être sur la photo 2 ans avant les élections présidentielles qui va changer la société, les gens le sentent bien. Donc le problème d'un parti, de l'unité du parti, on dit pas 15 choses différentes. Puis si on a des copains dans les autres pays qui disent que les différences de religion, d'ethnie, tout ça, on peut s'asseoir dessus, c'est pas le plus important, ça ressemblera, espérons, en plus rigolo, en mieux, dans des pays plus développés, à ce genre de mouvement. En clair, le mouvement altermondialiste, avec tout son côté folklorique, c'est une des tentatives pour organiser un peu les gens qui ont été atomisés. Oui, monsieur.
Je n'avais pas lu, mais il y a eu une réactualisation de Marx par Jacques Attali. Vous avez lu le livre?
J'ai lu, sans méchanceté, le livre attribué à Jacques Attali, puisqu'il y a le rapport attribué à Nikita Khrouchtchev. Je l'ai lu au début un peu énervé, parce qu'il remercie 15 personnes, et souvent... Mais cela dit, il y a des mélanges de fiches au début qui sont vraiment incroyables. Sur les méthodes de travail, ça révèle beaucoup de choses. Par exemple, il résume... les manuscrits de 1844 de Marx, mais en fait il raconte ce qu'il y a dans un livre de Feuerbach, un philosophe un peu antérieur, qui s'appelle L'essence du christianisme. Mais bon, malgré ces choses un peu scandaleuses, je me suis appuyé les 600 pages, ça se lit pas mal, il explique à la fin que Marx, aurait béni... le Parti Socialiste Français, bon, ça c'est sa conclusion à lui, mais il y a des tas de données qui ont été ramassées, archivées par des gens qui ont travaillé. C'est une introduction qui n'est pas scandaleuse pour quelqu'un qui veut se dégrossir. C'est simple à lire et documenté. Ça m'a heureusement surpris, si vous voulez.
Pensez-vous du travail d'Hélène Carrère-Lancos?
Elle a été mon professeur et donc personnellement, là, j'ai que du bien à en dire. Elle était amicale et charmante. C'est une des rares soviétologues en plus qui parle le russe, ce qui est quand même pas mal. Citation d'une qui est partie de ce monde, qui n'est donc pas Hélène Carrère-Lancos. C'est Hélène Carrère-Lancos qui me l'avait d'ailleurs rapporté. il s'agit, Hélène Carrère-Dancos a également le privilège parmi tout ce monde des soviétologues de ne pas être une ancienne qui brûle tout ce qu'elle a adoré. Elle n'a jamais été communiste. Mais s'était entendu dire par une consoeur qui ne parlait pas russe, mais qu'est-ce que tu t'en fous d'aller là-bas? Moi, je lis l'Humanité à Paris, ils traduisent la Pravda, c'est pareil. Elle parlait un peu comme ça, cette dame, qu'on aura reconnu, peut-être. Mais, bon, je crois que une des thèses qu'elle a divulguées, diffusées, qui ont eu un grand succès, parce qu'on ne réfléchit pas, on n'étudie pas les choses sérieusement, son affaire, l'Empire éclaté, qu'elle avait développé en même temps qu'un certain Bennigsen, qui travaille à Paris aussi. C'était, ça va se désagréger à partir de la périphérie. Chaque fois qu'il y a un responsable dans l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, les Russes mettent derrière un bonhomme pour le chaperonner, pour lui dire ce qu'il faut faire, un Russe, vivant sur place. Et ça va se désagréger parce que cette Asie centrale va partir du centre, elle ne va pas reconnaître la souveraineté de la Russie éternellement. Bon, il y avait quelque chose de malin, à l'époque où personne pensait que ça pourrait se désagréger, elle en parlait. Mais ça s'est passé autrement. Les derniers qui ont voulu maintenir l'Union soviétique, qui a été décomposée par le fait de la Biélorussie, d'Asie centrale soviétique. Souvent des bons vieux appareils, des politiques spéciales, sauf qu'ils veulent garder le pouvoir. Système complètement. Mais bref, quand elle parle, elle est résolument anti-communiste par rapport à beaucoup d'autres. Alain Besançon, citation, en matière de soviétologie, il dit dans les autres, en étude, en 85-6, en soviétologie, il faut faire un effort pour croire l'incroyable. C'est des gens qui ont formé des générations de chercheurs, qui tous étaient des petits camarades qui, en général, d'extrême-gauche ou au Parti communiste de 50 ans. C'est quand même un phénomène... De toute façon, je ne pleure pas sur le monde, mais j'ai oublié de vous l'apporter, évidemment. Je vais citer ailleurs qui a écrit un superbe roman, le manifeste du romantisme russe, on dit souvent, qui s'appelle Un héros de notre temps. Et il a écrit en 1830 une génération. Et bon, il parle d'une génération qui a été très servile devant, qui a raillé le passé. Donc je cite ça et il suffit de lire pour comprendre. Je crois que ceux qui ont 20 ans seront un peu plus rigolos, j'espère. En tout cas, ils n'auront pas l'impression d'un effondrement moral de gens qui étaient sur les barricades à 18 ans et qui ont fini notaire. Vous savez que c'était une injure de ce très réactionnaire Marcel Jouandeau, je crois. Oui, c'est ça, de sa fenêtre, il avait crié aux manifestants « Rentrez chez vous !» Chers amis, je suis dans des sentiers. De toute façon, encore là-dessus. Merci à vous. Alors, la prochaine fois, si vous avez du courage, fil de mot passant, ce sera beaucoup plus. Au revoir, merci.